Bon, Romains, chapitre 1, versets 28 à 32. Petit texte que je vais vous lire. Donc, on est arrivé à la fin du chapitre 1. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Waouh. On va dire, c'est pas très très positif ce matin. Mais vous allez voir, il y a deux conclusions à la fin de ce message, deux conclusions très très positives, malgré tout. Juste pour remettre tout ça dans le contexte, une petite révision. Dans cet épître aux Romains, on va dire que le titre se trouve au chapitre 1, versets 16 et 17. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et puis du grec. » Donc, l'évangile, pardon, l'épître de Paul aux Romains concerne le salut. Il n'a pas honte de ce salut. La deuxième chose, c'est que cet évangile, selon le verset 3, concerne son fils. Cet évangile annoncé auparavant de la part de Dieu par les prophètes, maintenant a été révélé et concerne son fils. Et pourquoi a-t-on besoin de l'évangile? C'est parce qu'à partir du verset 18, Paul explique que la colère de Dieu se révèle parce que l'humanité a étouffé la connaissance qu'elle avait de Dieu. Donc les versets 20 nous disent par exemple que quand on regarde la création, on peut comprendre les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Mais puisqu'on n'a pas voulu connaître Dieu, on a cherché l'humanité a cherché son autonomie, nous avons cherché notre autonomie, on a étouffé la connaissance qu'on avait, donc la colère de Dieu se révèle. Et nous avons déjà vu la semaine dernière que la colère, c'est l'opposition, l'indignation de Dieu face au mal, et qu'un jour il y aura un jugement, mais en attendant, il laisse faire, et donc le jugement, la colère, c'est aussi simplement laisser faire les hommes dans ce qu'ils font avec les résultats qui en découlent. Donc, comme d'autres textes bibliques nous disent, on récolte ce qu'on sème. Donc voilà un peu le contexte dans lequel se trouve ce dernier verset du chapitre 1. Et on va voir d'abord quatre points en ce qui concerne ces versets 28 à 32. La première chose, verset 28, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Donc, puisqu'ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. On avait déjà vu cela la semaine dernière au verset 24 et au verset 26 en ce qui concerne l'idolâtrie et l'homosexualité. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur, donc l'idolâtrie. Le verset 26, C'est pourquoi Dieu les a livrés, elles, à des passions infâmes. Et on parle de l'homosexualité, les femmes et les hommes qui ont troqué ce qui était normal contre autre chose. C'est le mot dans le texte. Autrement dit, on va dire pour le verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ou, pour le dire d'une autre façon, je crois que les gens ne vivent plus dans le réel. Plus dans le réel. On fait des idées, des idéologies, des théories, tout ce qu'on veut, mais on n'est plus dans le réel. Parce que si Dieu n'est pas là, Dieu n'est plus dans le réel. Je crois que c'était le culte du soir où j'ai fait ça. J'ai pris une pomme que j'ai coupée en deux et j'ai mis une partie au-dessus d'un bout de papier et la deuxième partie en dessous. On va dire, voilà, la pomme représente toute la réalité. Mais puisque c'est coupé en deux dans ce monde, on ne voit que la moitié. Et la deuxième moitié, la présence de Dieu, tout ce qui est spirituel et la vie éternelle, c'est comme si on ne le voit pas. Donc on a étouffé tout cela. Le verset 28, en fait, il y a même dans l'original, il y a une sorte de jeu de mots que l'on peut traduire de la façon suivante. Ils ont utilisé leur intelligence, mais de façon erronée, et maintenant tu les as abandonnés à cette intelligence. C'est difficile de traduire, mais ça c'est un théologien qui a proposé cette traduction. Donc leur intelligence n'a pas été bien utilisée, donc maintenant leur intelligence ne fonctionne plus comme il faut. On n'est pas en train de dire que les gens sont bêtes, sont capables d'inventer beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses. C'est pas ça. Mais que cette intelligence ne voit pas tout le réel. Donc, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et Dieu les a livrés ou abandonnés à leur façon de vivre. Qui n'est pas totale, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, après, du verset 29 au verset 31, il y a toute une liste de péchés. Rassurez-vous, je ne vais pas les commenter individuellement. C'est un peu long. C'est une liste, comme tout le monde a dit, assez aléatoire. C'est même pas regroupé, en fait, sauf parfois un peu par sonorité de mots, mais c'est une liste assez aléatoire. Mais dans l'Antiquité, les philosophes et les moralistes établissaient souvent ce genre de liste. Parfois, ils étaient même plus détaillés ou plus virulents que même Paul dans ses lettres. Mais que veut faire Paul ici? Il veut montrer à la fois l'ampleur et la diversité du péché. Le péché n'est pas, loin de là uniquement, l'idolâtrie et l'homosexualité. Et ce n'est pas les petits péchés, on mange trop de chocolat pendant le carême, ou je sais pas. C'est toute cette liste ici, qui est très, très divers. Autrement dit, après la rupture d'avec Dieu, le comportement des êtres humains les amène, en fait, avec ses actes et ses attitudes, à perturber même leurs relations sur le plan humain. Ce qui a commencé en rejetant Dieu est en fait après un rejet des autres. Parce que quand on parle de meurtre, de querelle, de ruse, de médisance, rebelle aux parents, etc., on voit que cela touche les relations humaines. Donc je ne vais pas commenter, mais je me suis dit, c'est peut-être bien de lire ce texte dans votre traduction, juste pour nous le mettre un petit peu dans la tête. Donc j'ai choisi de le lire dans la version Parole Vivante, une très belle version à mon sens, fait à partir de ce qu'on appelle le français fondamental. Donc c'est des paroles assez simples. C'était fait d'abord pour les personnes dont le français n'était pas la première langue. Donc, simplement pour le remettre dans la tête, cette ampleur et cette diversité du mal, je le relis dans cette version. Ils sont pleins de toutes sortes d'injustices. Ils font le mal. Et ils veulent ce qui appartient aux autres. Ils sont méchants. Ils sont pleins de jalousie. Ils tuent. Ils se disputent. Ils trompent les autres. Ils agissent n'importe comment. Ils racontent des mensonges sur les gens. Ils disent du mal d'eux. Ils sont ennemis de Dieu. Ils insultent les autres. Ils sont orgueilleux. Ils se vantent. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont stupides. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont sans cœur et sans pitié. Tout clair. Ça, c'est la description de l'être humain. Troisième chose dans ce texte, Paul ajoute, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, ils continuent à le faire. Ce jugement de Dieu déclarant digne de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils connaissent le jugement de Dieu. Bon, il faut dire que Paul a déjà dit qu'ils ont étouffé la connaissance de Dieu. Donc, ils ne vont pas forcément dire je suis jugé par Dieu. Par contre, tous les êtres humains continuent à vouloir autre chose que ce qu'ils voient. Parce qu'ils savent qu'il y a mieux. J'ai souvent cité le poète latin Ovide, qui dit « Je vois le bien, je l'approuve, et je fais le mal. » Mais quand on cherche tout au long des siècles, que ce soit les philosophes, les romanciers, les cinéastes, les dramaturges, tous se sont employés à critiquer le mal, en disant que c'est pas bien de faire comme ça. On pourrait parler au XVIIe siècle, Molière, La Fontaine, La Bruyère, etc. Donc, ils sont attaqués à la folie aux phobies des êtres humains. On vit ça. Il ne faut pas le faire. Et même, je dirais, aujourd'hui, Mediapart, on va dire, donc cherche tout le temps à dire, ah, il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui envoient de l'argent à l'étranger, etc., etc. Donc, ils savent que ce n'est pas bien. Mais, si on était soi-même devant la situation, qu'est-ce qu'on ferait? Je me souviens d'une phrase qu'on m'a dit il y a bien des années, un peu compliquée, j'espère que vous allez comprendre. Le monde serait merveilleux si ceux qui n'avaient pas d'argent puissent avoir de l'argent et faire avec l'argent ce qu'ils auraient fait quand ils n'en avaient pas.
Ouais.
C'est un peu compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire. Devant la réalité, ça devient autre chose. On va condamner le mal, mais soi-même devant la situation, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on sait, et c'est pour ça que Paul peut dire qu'ils connaissent le jugement de Dieu, même s'ils vont enlever le mot Dieu, ils le savent. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'est beaucoup interrogé sur le bout de la phrase qui dit « De qui connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. » Parce que si on a étouffé la connaissance de Dieu, peut-être on ne sait pas. On pense plutôt que c'est Paul qui l'ajoute, en quelque sorte, parce que lui il connaissait l'histoire de la chute dans Genèse 3. On va dire, voilà, les gens savent que les choses qui sont très graves et qu'ils sont dignes de mort, même si en réalité, peut-être qu'ils enlèvent Dieu de l'équation. Et puis la quatrième chose que je voulais dire sur ce texte, c'est le verset, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. C'est un verset qui est important pour moi, parce que je peux dire dans ce sens, par rapport à mon témoignage, que c'est un peu à cause de cela que je me suis converti. J'étais en terminale, je n'étais pas encore chrétien à l'époque, je me suis converti en fac, mais c'était un lycée de garçons à l'époque, et donc on allait en études, et puis en études, il racontait plein d'histoires qui n'étaient pas forcément très propres, et je me suis dit, quand c'est drôle, je veux bien rire. Mais c'est même pas drôle. Mais il riait. Pourquoi? Et ça m'a un peu touché pour dire pourquoi il rit quand c'est pas drôle. Parce qu'en fait, c'est pour se donner, justement, bonne conscience. Si les autres le disent, si les autres le pensent, moi aussi je peux le faire. Et ça m'a poussé un peu à chercher Dieu. Et quelques mois plus tard, donc, je me suis converti. Bon, bien sûr, il faut que Dieu touche la conscience hein, pour que ce soit comme ça. Bon. Donc ce verset, je le comprends. Et aujourd'hui, donc, on le voit, une large consensus dans la société. Parfois, pour dire que certaines choses sont tout à fait normales. L'adultère, par exemple, bon, je discutais avec des gens, disent c'est comme ça, tout le monde c'est comme ça, pas grave, le couple va se refaire, et s'ils ne vont pas se refaire, bon, ce sera avec un autre couple, c'est pas grave. J'ai souvent entendu des gens dire ce genre de trucs. Étonnant, mais on se donne bonne conscience. Donc voilà le texte en tant que tel. Et je voulais quand même commenter ce texte un peu sur le plan un peu plus théologique. Parce que là, on est arrivé à la fin du chapitre, donc ça nous permet de prendre un petit peu de recul. Et ce chapitre illustre en fait ce qu'on appelle dans la théologie, la doctrine de la corruption totale ou la dépravation totale. Bon, dépravation, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, donc c'est pour ça qu'on dit corruption totale. Mais quand on remonte au calviniste du XVIe siècle, hein, c'était la dépravation dont il parlait. Ça veut dire quoi? Que l'être humain est pécheur totalement. Encore, il y a quelques petites nuances que je vais amener. Donc voilà, on peut se poser la question. Quel est l'enseignement biblique de ces deux phrases? Il a un bon fond, mais ça lui arrive de faire le mal. Il a un mauvais fond, mais ça lui arrive de faire le bien. Quelle est la doctrine biblique des deux? Je ne vais pas vous demander de voter.
Il a un mauvais fond, mais cela lui arrive de faire le
bien. C'est ça. Cette expression-là nous a toujours fait rire parce que c'est quand j'étais dans une autre ville, il y avait un garçon qui habitait à côté de chez nous, hein, donc il faisait un peu les 400 coups, et puis je me souviens d'une autre voisine qui dit bah, il a un bon fond. Mais bon, il est toujours poli avec nous. Il disait même à ses copains il ne faut pas toucher à M. Brahms, c'est un pasteur. C'est bien. L'homme de Dieu. Donc voilà, ça c'est l'enseignement biblique. Mais je pense que si on demandait autour de nous, si on faisait une enquête dans la rue, je pense que c'est la première réponse qui serait plutôt plébiscitée. On va jusqu'à dire l'homme est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça la doctrine de la corruption. Total. Et c'est important de le retenir. Les deux parties. Hein. Quand on dit un bon fond, pardon, quand on dit qu'il a un mauvais fond, ça ne veut pas dire qu'on dit de lui qu'il ne fait que des mauvaises choses du début de la journée jusqu'à la fin. Parce qu'il y a en théologie une autre expression qu'on utilise, la grâce commune. Ça veut dire que Dieu, dans sa grâce, empêche les choses d'aller jusqu'au bout. Donc, que dit alors cette doctrine de la corruption totale, de la dépravation totale? D'abord, que le péché est universel. Que, comme on va voir dans Romains 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul, la seule exception, publiquement, bien sûr, c'est Jésus, qui a vécu sur la terre sans péché une seule fois. Donc, corruption totale, ça veut dire que ça touche tout le monde. Et deuxième chose, c'est que le péché touche tous les aspects de notre vie. Tous les aspects. Je vais revenir à ça tout à l'heure pour voir quelques débats par rapport à ça. Donc, on va dire que la corruption totale, c'est universel et tous les aspects de notre vie. Mais, cela ne signifie pas, primo, que toute trace de rectitude morale a disparu de l'homme. Et on a souvent parlé, c'est un peu incompréhensible, à certains gardiens de camps de concentration nazis qui étaient par ailleurs de très bons citoyens, qui s'occupaient bien de leurs enfants, enfin, tout le reste. Donc, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, il reste en nous des traces. On sait ce qui est bien, et parfois on le fait. Donc il reste des traces, on dit, de rectitude morale. Et la deuxième chose, comme j'ai dit, l'homme, ça ne signifie pas que l'homme est aussi corrompu qu'il pourrait l'être. Parce que la grâce commune intervient, et les gens, quelle que soit la raison, peut-être par intérêt, hein, je ne vais pas taper, me battre avec mon voisin, parce que comme ça, je suis tranquille, il ne va pas se battre avec moi. Donc c'est assez égoïste, mais au moins, ça fait partie de la grâce commune, hein, ce qu'on appelle le contrat social, quelque part. Donc, et puis, tu as mis aussi en place des autorités, la police, pour empêcher que les gens aillent jusqu'au bout du mal. La crainte de la punition, la crainte du gendarme. Pourquoi on roule pas à 170 sur l'autoroute?
Parce
qu'il y a des radars. Hein, et parce qu'on ne veut pas payer, et parce qu'on ne veut pas se voir privé de son permis de conduire. Autrement dit, on va dire que corruption totale, c'est par rapport, par rapport au champ d'application et non pas par le degré de corruption. Parce qu'il y a des gens qui sont très bien dans la société. Mais malgré tout, ils sont pécheurs et le péché touche tous les aspects de leur vie, plus ou moins. Non, tous les aspects de leur vie, point. Okay? Et le résultat, c'est que cette corruption est irréversible sans l'aide de Dieu. Je vais parler de trois cas de figure. D'abord, il y a beaucoup d'humanistes qui vont dire « l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt ». C'est un peu incompréhensible, parce que la société, ce sont les êtres humains. Donc, alors comment ça se fait qu'ils sont mauvais? C'est un cercle, une vie sans fin. Mais, il y a des gens qui le disent. Deuxième cas de figure, les musulmans qui pensent que l'homme a véritablement le choix d'obéir ou non. Donc s'il n'obéit pas, il le fait de plein gré, donc et il peut être jugé pour ses œuvres. Donc, alors que il est vrai que l'être humain, selon la doctrine de la corruption totale, a hérité ça en quelque sorte de ses ancêtres depuis sa naissance. Donc ça veut dire qu'il est quand même coupable, mais il n'est pas capable de faire autre chose. Il ne peut pas vivre bien toute sa vie, donc il ne peut pas se sauver. Le troisième cas de figure, c'est beaucoup plus compliqué, mais il est vrai aussi que, par exemple, à l'Église catholique, le baptême supprimerait la culpabilité et les conséquences du péché original, pardon, par le baptême. Mais ce que l'on fait dans la vie, ça c'est à nous maintenant d'assurer, d'assumer. Et même si les théologiens catholiques entourent tout cela d'infinies précautions, malgré tout, quoi qu'ils pensent les théologiens, le peuple catholique, en général, quand on parle avec les catholiques, pense qu'il faut mériter son salut. Quelle que soit la position, mais je pense que la position officielle, c'est que le baptême supprime le péché originel, mais on a un rôle à jouer par rapport à notre vie après. Alors, en conclusion, parce que j'ai dit qu'il y a au moins de côté très positif, positif de cette doctrine. Le premier, c'est que c'est le préalable pour comprendre l'évangile. Dès qu'on pense que l'on peut se sauver soi-même, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'un sauveur. Moi, je peux le faire tout seul. Donc, c'est vraiment très positif. Et comme on dit depuis plusieurs semaines, c'est un peu comme le diagnostic d'une maladie. Il faut faire le bon diagnostic. Et quand on fait le bon diagnostic, on peut les traiter. Et le bon diagnostic, c'est qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Donc, ça, c'est la première chose très positive. La deuxième chose, c'est que cela nous protège de toute utopie. C'est d'ailleurs le message de l'Ecclésiaste. On revient à l'Ecclésiaste. Parce que la vie est vanité. Et comme on l'a traduit dans nos études bibliques, fumée, fragilité, passager, illusoire, stérile, misérable, dérisoire, déplorable, lamentable, décevant et absurde. Quand la société est comme cela, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Sauf que Ecclésiaste 9:10 dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Donc on le fait, mais sans avoir cette illusion qu'on va construire la société parfaite sur la terre. On fait ce qu'on peut dans cette situation. Pour donner trois exemples, il faut aimer son prochain, mais il ne faut pas être surpris si on n'arrive pas à résoudre tous ses problèmes. L'entourer, on peut l'aimer, mais on ne peut pas résoudre tous les problèmes de tout le monde. Deuxième cas de figure, et donc puisqu'on s'approche des municipales, il faut voter. Il faut faire son devoir de citoyen. Mais il ne faut pas croire que tel ou tel parti, une fois élu, va résoudre tous les problèmes de la municipalité, de la France. Donc, quelque part, c'est dire, oui, on doit dans la vie faire ce que l'on peut, avec la force qu'on a. Mais ça nous enlève de cette utopie où le parti devient une religion, parce qu'on n'a qu'à suivre cela et puis on va résoudre tous les problèmes. Ou troisième cas de figure, il faut bien faire son travail. Selon Éphésiens 6, comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Mais le travail n'aboutira jamais à des solutions parfaites et durables pour tout le monde. On peut faire un peu de bien, on peut essayer de faire, faut plus intéressant de bien faire son travail avec la force que l'on a, Ecclésiaste 9:10, essayer de faire pour le mieux, mais cette doctrine nous délivre de la pensée que tout doit se passer parfaitement. Parfois, on peut faire un énorme projet et puis on pense que ça va vraiment faire du bien et puis les gens ne suivent pas. Ou bien on travaille en équipe et on pense que ce que l'on va faire est bien. Et après, il y a des dissensions à l'intérieur de l'équipe parce que les êtres humains n'arrivent pas à vivre ensemble. Donc, comme on dit, il faut cultiver son jardin, il ne faut pas s'étonner que les mauvaises herbes reviennent. C'est comme ça. Donc, il faut vivre dans le réel, et je propose de terminer avec deux versets. J'anticipe sur Romains chapitre 8, et les versets 22 et 23. Qui dit, nous savons que la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Voilà. C'est en gémit. Le mot soupir veut dire gémir, en fait. La création tout entière gémit. Mais ce n'est pas elle seulement. Nous aussi, même nous qui avons les prémices de l'esprit, nous gémissons en nous-mêmes. Il arrive de gémir. pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Moi, mais en gémit en attendant la rédemption de notre cœur. Parce qu'au moins on sait, nous, qu'un jour, il y aura nouvelle terre, nouveaux cieux, la justice habitera, et là, on sera bien. Donc, là, le point de vue chrétien, ce n'est pas de dire, en attendant, on ne fait rien, on attend, parce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Mais on le fait avec réalisme, et non pas en tant qu'utopie. Parce qu'il y a quand même la corruption totale. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous révèles des choses que nous n'aurions pas su autrement. On aurait pu peut-être observer le monde et se dire toutes ces choses comme les écrivains, comme les cinéastes ou d'autres. Mais toi, tu nous dis pourquoi. C'est parce que nous sommes détournés de toi. Et j'aimerais demander pour chacun ici que nous puissions vivre ces deux choses positives et que tout cela nous pousse à nous glorifier de ta grâce qui seule nous sauve et puis d'autre part d'agir pour le bien de ceux qui sont autour de nous mais sans illusion, sans chercher l'utopie sur la terre. Et merci de transformer nos mentalités pour être conformes à l'enseignement de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.